Avant de commencer cette prédication, j'aimerais vous raconter une petite anecdote dont je ne suis pas très fier. Ça s'est passé dans cette salle, là, ici, il y a quelques semaines. Et puis, j'étais là l'après-midi, je travaillais, et le téléphone sonne. Et puis, c'était un commercial au téléphone, un appel qui venait d'un centre d'appel. Et moi, je n'avais pas envie d'être dérangé dans ce que j'étais en train de faire, surtout que c'est quand même quelque chose qui arrive plusieurs fois par semaine. Voilà, on est sur l'annuaire et donc on est appelé. Et puis la commerciale que j'avais au bout du fil, elle n'avait pas envie que je raccroche, ce qui devait sûrement lui arriver elle plusieurs fois par heure. Et puis donc on était là à discuter, et puis au bout d'un moment, il y a eu une certaine tension entre elle et moi, puisque moi, de mon côté, je refusais de lui donner les renseignements qu'elle voulait. Je me disais, mais plus je l'en dis, plus on va être appelé, démarché, etc. Et puis, elle, de son côté, elle ne voulait pas me laisser tranquille, comme j'essayais de lui expliquer qu'elle devait faire. Et puis, je percevais, non seulement il y avait une certaine tension, mais que la discussion, elle partait mal. C'est-à-dire que chaque mot qui était dit, j'avais l'impression, était interprété, mais pas dans le bon sens. Alors, à un moment... Je lui ai dit que j'avais rien personnellement contre elle. Je veux dire, c'était son travail. Je lui ai même fait remarquer que c'était pas un travail facile qu'elle faisait. Et puis en plus, certainement qu'elle ne devait pas être bien payée pour cela. Et puis, je pensais que ceci allait apaiser un petit peu la tension. Mais au contraire, ça l'a amené vraiment à son paroxysme. Et là, elle m'a dit comme ça, « Vous êtes pasteur !» que j'avais dû lui dire un moment, que lui demander mais qui elle avait au bout du fil. Et oui. Eh bien, monsieur, vous n'êtes pas digne d'être pasteur. Clac. Et elle a raccroché. Donc j'étais là, j'étais assez mal à l'aise hein, dans cette pièce. Et dans ma manière de me comporter, je me posais cette question, mais est-ce que je me suis montré indigne de l'appel que le Seigneur m'a adressé? La manière dont je lui ai parlé, dans ce qu'elle a pu s'en ressentir. Alors, se montrer digne, c'est agir en conformité avec ce que l'on est censé être ou représenter. Alors que se montrer indigne, c'est au contraire donc agir d'une manière qui n'est pas en accord avec ce que nous sommes censés être, ou bien c'est également agir d'une manière qui déshonore celui que nous représentons. Si nous sommes chrétiens, nous avons tous reçu l'appel de suivre Jésus. Est-ce que, de votre côté, vous cherchez à vous montrer digne de votre appel? Eh bien, ce matin, nous allons voir de quelle manière nous devons nous comporter afin de nous montrer dignes de notre appel. C'est l'objectif que je vise au travers de cette prédication, c'est mettre en lumière comment notre attitude, comment notre façon de vivre peut nous permettre de nous montrer dignes de notre appel selon Dieu. Nous allons poursuivre notre série de prédications sur la lettre aux Éphésiens et je vous invite à ouvrir vos Bibles au chapitre 4. Si vous n'avez pas de Bible, vous pouvez vous en procurer une au fond parce qu'il n'y aura pas de projection de fait. Et si vous avez une Bible blanche, je regarde, quelques-uns en ont, c'est à la page 768 que vous pouvez l'ouvrir. Le chapitre 4 commence ainsi au verset 1. Je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. Voilà comment commence le chapitre 4. Et nous avons déjà vu la première partie du chapitre 4. Nous avons vu que cette partie nous dit que nous devons, pour nous montrer dignes de notre appel, nous devons chercher à œuvrer à l'unité de l'Église. Et la seconde partie que nous allons voir a toujours pour but de nous amener à nous conduire d'une manière digne de notre appel. Mais pour cela, il insiste sur le fait qu'un chrétien ne doit pas se conduire de la même manière qu'un non-chrétien. Et je commencerai ma lecture au verset 17, Éphésiens 4, verset 17, et nous lirons tout le reste de ce verset, de ce chapitre. Voici donc ce que je dis et ce que j'affirme dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants, qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral et se sont livrés à la débauche pour commettre avec avidité toutes sortes d'impuretés. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ, si du moins c'est lui que vous avez écouté, et si c'est en lui que vous avez été enseigné conformément à la vérité qui est en Jésus. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs, à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne laissez aucune place au diable. Que celui qui volait cesse de voler. Qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été marqué d'une empreinte pour le jour de la libération. Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonnés en Christ. Nous pouvons être chrétiens et nous conduire indignement. C'est, on va dire, techniquement possible. Nous pouvons croire en Jésus, nous pouvons savoir ce qui est juste et bon, mais pourtant, cela ne suffit pas pour faire de nous un chrétien qui honore le Seigneur, si jamais nous ne lui faisons pas honneur par notre vie, par notre comportement. Alors bien sûr, certains peuvent alors se dire mais on n'est jamais, on ne sera jamais totalement digne de cela. Effectivement, comment est-ce que nous pourrions nous montrer dignes du sacrifice de Jésus? Mais cette incapacité à être 100% digne ne doit pas nous servir d'excuse pour autant pour ne pas chercher à mener la vie la plus digne possible, une vie qui honore le Seigneur. Et des fois, on se cache derrière cela. Oh, mais c'est pas possible. Donc, comme c'est pas possible, on fait rien. Nous ne serons jamais totalement dignes, mais ce n'est pas une excuse pour nous montrer indignes. Ce que nous devons au contraire chercher, c'est à nous montrer le plus digne possible de la grâce qui nous a été accordée en Christ et de notre appel à vivre comme lui. Et ce sont les versets 22 à 24 qui sont imprimés sur les feuilles qui vous ont été distribuées, qui mettent en lumière ce que nous devons faire afin de nous montrer dignes de notre appel et de ne plus vivre comme des non-chrétiens, mais de vivre comme des disciples de Christ. On va dire que c'est un mouvement en trois temps. Nous devons tout d'abord nous débarrasser du vieil homme. Nous devons ensuite nous laisser renouveler par l'esprit dans notre intelligence. Et nous devons troisièmement nous revêtir de l'homme nouveau créé selon Dieu. Et comme cela est souvent le cas aussi bien en français qu'en grec, la langue qui est la langue originelle de ce passage, le mot traduit ici par « homme », le vieil homme ou homme nouveau, ne désigne pas spécifiquement les êtres masculins, mais l'ensemble des êtres humains. Si nous voulons nous montrer dignes de notre appel à suivre Christ, nous devons premièrement commencer par nous débarrasser du vieil homme. Le vieil homme, c'est selon notre passage, ce qui correspond à notre ancienne manière de vivre, c'est-à-dire à une manière de vivre où Dieu ne compte pas. Et les versets 17 et 18 nous indiquent ce qui caractérise ceux qui sont étrangers à la vie de Dieu, parce qu'ils sont dans l'ignorance de qui est Dieu et de ce qu'est sa volonté, parce que leur cœur n'a pas été touché, eh bien, leur sens moral n'est plus juste, et donc ils commettent toutes sortes de choses contraires à la volonté de Dieu. Alors, un tel comportement peut se comprendre de la part des non-chrétiens, mais cela est totalement incompréhensible pour nous, chrétiens, car le verset 20 nous dit « Nous, chrétiens, ce n'est pas ainsi que nous avons appris à connaître Christ. Si nous croyons en Jésus, nous savons très bien que Jésus nous demande de renoncer à une manière de vivre où Dieu ne compte pas. Nous devons nous débarrasser du vieil homme. » Alors, nous débarrasser, c'est quelque chose qui demande un effort. C'est quelque chose qu'on doit faire volontairement. C'est pas on le perd comme ça, on n'y est pour rien. Non, on doit s'en débarrasser, on doit être actif là-dedans. Et parfois, ça peut être quelque chose de douloureux. Quelque chose qui nous demande un sacrifice et même qui peut nous faire peur. On sait ce qu'on lâche, mais on ne sait pas ce qu'on récupère. Trop souvent, nous savons ce à quoi Dieu nous demande de renoncer. Mais trop souvent, nous refusons de nous en débarrasser. Dans ce passage, il ne nous est pas reproché de mal croire, de ne pas être au courant. Au contraire, ce passage nous dit « Mais vous avez appris, on vous a enseigné. » Ce n'est pas de mal croire qui nous est reproché, c'est de mal vivre. La véritable foi en Jésus, ce n'est pas seulement de croire en lui, mais c'est aussi de le suivre et de lui obéir. Et pour nous montrer dignes de notre appel, nous devons nécessairement, on doit être bien conscient de ça, nous devons nécessairement renoncer à tout ce qui dans notre vie est contraire à la volonté de Dieu. Ensuite, une fois qu'on s'est débarrassé de ça, nous devons nous laisser renouveler par l'Esprit dans notre intelligence. Alors, nous laisser renouveler par l'Esprit, c'est pas attendre passivement comme ça que Dieu agisse en nous. Voilà. Seigneur, change ma manière de voir les choses, change ma manière de penser. Et puis en attendant, je continue à faire comme je veux. Non. Nous laisser renouveler par le Saint-Esprit dans notre intelligence, c'est reconnaître, comme s'appliquant à nous personnellement, ce que le Saint-Esprit nous révèle de la volonté de Dieu. C'est la définition qui nous est indiquée dans Romains 12, 2, par exemple, qui nous dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Et que produit ce renouvellement de l'intelligence ?« Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Un des travaux du Saint-Esprit, c'est de nous révéler la volonté de Dieu et de nous montrer comment elle s'applique à notre vie et dans notre situation. Et cette révélation de la volonté de Dieu par le Saint-Esprit a pour essentiellement appui la Bible. C'est en lisant la Bible que nous prenons conscience de la volonté de Dieu. Mais le Saint-Esprit utilise également l'Église, la communauté des croyants, et aussi la prière pour nous parler. Et bien, pour nous montrer dignes de notre appel, nous devons accepter comme valable pour nous la vérité révélée par le Saint-Esprit. Pas seulement la connaître, mais nous dire que ça s'applique aussi à nous. Et dans un troisième temps, nous devons nous revêtir de l'homme nouveau créé selon Dieu. C'est-à-dire adopter une nouvelle attitude, adopter l'attitude de ce que Jésus ferait à notre place. Romains 13, 14 nous dit cela, « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ » et ne vous préoccupez pas de votre nature propre pour satisfaire ses convoitises. Le renoncement à vivre comme si Dieu n'existait pas, la connaissance de la vérité révélée par le Saint-Esprit, nous amène à adopter une nouvelle manière de vivre qui se caractérise, selon le verset 24, par la sainteté et la justice. C'est un mouvement en trois temps. Et des fois, on se trompe parce que on fait seulement un de ces trois temps, ou deux sur trois. Mais ce n'est pas simplement renoncer à faire ce qui est mal. Voilà, on s'abstient sans faire ce qui est bien. Ce n'est pas seulement discerner la volonté de Dieu. Ah, Dieu nous a éclairés, on sait. Non, ce n'est pas seulement ça. Ça, sans le mettre en pratique. Ce n'est pas non plus seulement faire de bonnes choses en même temps que de mauvaises. Voilà, on se contente de revêtir de temps en temps Christ sans avoir abandonné un certain nombre de choses. Ce sont les trois ensemble qui nous permettront de nous montrer dignes de notre appel. Petite remarque, ce mouvement en trois temps nous amène à un profond changement dans quoi ? Dans notre manière de nous comporter avec les autres. Ce que Dieu nous demande, c'est de nous comporter avec les autres comme lui-même s'est comporté envers nous. Jean 13, 34, par exemple, nous dit « Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Et notre passage au verset 31 dit « Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. » Si jamais nous ne nous comportons pas avec les autres comme Jésus l'a fait pour nous, ou comme Jésus le ferait à notre place, non seulement nous déshonorons Dieu, et nous ne sommes pas dignes de notre appel, mais en plus, verset 30, nous attristons l'Esprit de Dieu. Notre passage aurait pu simplement dire « nous attristions Dieu », mais il précise « nous attristons l'Esprit de Dieu », et je pense que ce n'est pas pour rien. Parce que qu'est-ce qui caractérise le Saint-Esprit, hein, quand on lit la Bible ? On voit entre autres que le Saint-Esprit, lui, vit en nous. Il connaît chacune de nos pensées, même les plus secrètes. Il connaît toutes nos motivations, même celles qui se cachent derrière nos actes et nos paroles. Il ne voit pas simplement l'apparence, mais il connaît également nos motivations. Et parfois, nous pouvons essayer de porter le masque du bon chrétien. Ça nous arrive tous, ça. C'est voilà, celui dont la vie est entièrement conduite par la vérité, celui qui marche dans la sainteté, la justice. Et parfois, nous pouvons ainsi donner un peu le change. Mais on ne peut pas tromper le Saint-Esprit. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit peut parfois voir dans nos cœurs si jamais nous refusons de nous débarrasser du vieil homme? Selon le verset 31, il voit parfois en nous de l'amertume, de l'irritation, de la colère, des paroles qui manquent de douceur, des paroles médisantes, des actes ou des attitudes qui ne sont pas motivées par notre amour pour l'autre, mais par notre désir au contraire de régler nos comptes et de lui faire du mal. Eh bien, nous ne devons tolérer aucune de ces choses dans nos vies, même en faible quantité. Nous devons absolument nous en débarrasser. Car ce qui, au contraire, devrait nous animer et se manifester dans notre relation avec les autres, c'est, selon le verset 32, la bonté. La bonté, c'est chercher à être bon et à faire du bien à l'autre. La compassion, c'est non pas juger et condamner l'autre sur ce qu'on perçoit, mais c'est au contraire chercher à comprendre l'autre dans ses difficultés, dans ses luttes. Le pardon devrait nous animer. Pardonner, c'est passer par-dessus l'offense ou la blessure. Et tout ça, c'est l'attitude que Dieu a envers nous. Toute autre attitude que celle-ci attriste l'Esprit de Dieu qui vit en nous. Et Dieu est triste parce que nous refusons d'agir envers les autres comme lui-même a agi pour nous. Dieu nous a prouvé son amour. Dieu nous a accordé sa grâce. Il nous a incorporés à son peuple. Il a même fait de nous ses ambassadeurs, ceux qui le représentent et ceux qui agissent en son nom. Et Dieu attend donc de nous que nous vivions d'une manière digne de notre appel. Et cela dépend de nous. Si jamais nous voulons vivre d'une manière digne de notre appel, il nous faut nous débarrasser de notre vieil homme dans tous les domaines de notre vie, renoncer à vivre comme si Dieu n'existait pas ou comme si Dieu ne comptait pas. Nous devons nous laisser renouveler par l'esprit dans notre intelligence, donc chercher à recevoir la vérité de Dieu révélée par le Saint-Esprit, et nous devons revêtir l'homme nouveau, vivre comme Jésus ferait notre place. Et afin que nous comprenions en quoi cela consiste, notre passage nous donne quelques exemples. Ce n'est pas exhaustif, hein, mais il en donne quelques-uns. Verset 25. C'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Comment est-ce que les choses se passent en règle générale lorsqu'une personne a un grief contre une autre? Comment ça se passe en règle générale? Trop souvent, elle se met à la critiquer dans son dos, alors que devant elle, elle ne dit rien. Tout va bien, mais dans le dos, clac, 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 clac. Eh bien, nous débarrasser de cette manière d'agir du vieil homme, c'est cesser de critiquer les autres dans leur dos. C'est aussi cesser de dire sur eux des mensonges, parce que c'est tellement facile de parler de quelqu'un dans son dos, parce qu'on peut dire n'importe quoi, la personne ne peut jamais se défendre. Et des fois, trop facilement, on dit « mais un tel a fait ceci », c'est un fait. Et puis on interprète « parce que ceci, cela ». Et trop souvent, ça, ce sont des mensonges. Des mensonges, et c'est d'autant plus difficile que la personne ne peut rien faire pour se défendre. Parler des autres dans leur dos, soi-disant pour dire la vérité, parce que souvent c'est derrière ça aussi, c'est l'alibi qui nous sert trop facilement. Oui, mais c'est vrai. Ça, c'est le poison des églises. C'est ce qui empoisonne les relations fraternelles et qui sème la division au sein du corps de Christ. Depuis quelques semaines, là, je suis impressionné par le nombre de témoignages que j'ai lus ou que j'ai entendus de pasteurs ou de responsables d'église qui disaient qu'il leur a fallu mettre fin à des rencontres d'église dont le principe était basé sur les échanges personnels. Parce que ce qu'ils se sont rendus compte, parce qu'eux-mêmes n'étaient pas présents à ce genre de discussion, à ce genre de réunion, mais petit à petit, ils se sont rendus compte qu'il y avait une espèce de poison qui s'insinuait dans l'Église. Et malheureusement, quand ils se sont rendus compte, c'était déjà un peu tard. Parce qu'en fait, comment ça se passait? C'est que, alors que ce principe de rencontre, c'est plus de parler de soi, de ses propres difficultés, de ce que l'on vit. Et bien en fait, les rencontres déviaient et on finissait par parler des autres. Et surtout de ce qui n'allait pas chez les autres. Et curieusement, hein, ce qui est marrant, parce que j'en ai eu plusieurs à droite et à gauche, curieusement, dans ces témoignages, c'est pratiquement toujours le même schéma qui se reproduit. Alors, pour moi, pasteur, hein, généralement, les pasteurs sont critiqués sur leur manière de s'habiller et sur leur prédication. Les membres du conseil sont critiqués sur les décisions qu'ils ont prises ou les décisions qu'ils n'ont pas prises. Les présidents de culte sur les choix des chants, et puis les responsables des différents services ou ministères, comme que ce soit le ménage, la musique, les enfants, eux c'est plutôt sur la manière dont ils organisent leur service. Voilà. On aurait dû faire autrement. Et puis on critique aussi généralement ceux qui sont les plus investis dans l'Église en leur reprochant d'en faire trop. Et le point commun de tout cela, c'est que ça se produit toujours en l'absence de ces personnes. La vérité n'est pas dite, car souvent ce sont des mensonges, au contraire, qui sont dits, des interprétations erronées des faits, et rien n'est dit à la personne concernée, mais seulement aux autres. La vérité n'est donc pas dite à notre prochain, dans ce cas-là. Nous débarrasser du vieil homme, c'est non seulement refuser de parler des autres dans leur dos, mais c'est également refuser d'écouter ces critiques, parce qu'il en reste toujours quelque chose. Ça, c'est le premier mouvement, mais ça ne se limite pas à ça. Deuxième mouvement, nous devons nous laisser renouveler par l'esprit dans notre intelligence. Ici, c'est discerner la volonté de Dieu, par exemple, tel que cela est exprimé dans Matthieu 18, 15 à 17, qui nous dit « Si ton frère a péché contre toi, voilà, si on a on a quelque chose contre nos frères, on pense qu'il a fait quelque chose de pas bien. Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit à tes yeux comme le membre d'un autre peuple. Ça, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Eh bien, revêtir l'homme nouveau, c'est dire à la personne concernée et à elle seulement, dans un premier temps, ce que nous avons sur le cœur. Parce que notre but, ce n'est pas de rabaisser cette personne devant les autres, ni de lui faire du mal par les mots qui sortent de notre bouche, mais c'est au contraire, c'est de pouvoir vivre avec elle dans la communion fraternelle. Et puis grâce à cet échange hein, de un à un, eh bien, on espère que l'autre va pouvoir comprendre ce que nous vivons ou nos questionnements. Et puis peut-être que l'autre va pouvoir nous demander pardon si jamais elle nous a blessés, ou peut-être que des fois ce qui ressort dans ces discussions, c'est que le tort ne vient pas que d'un seul côté, mais des deux. Et peut-être que nous pourrons également lui demander pardon. Nous devons dire la vérité à notre prochain. Un autre exemple, celui du verset 26, c'est « Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne laissez aucune place au diable. » Ici, ce n'est pas le principe même de la colère qui est mis en question, c'est notre manière de la gérer, parce qu'il y a de bonnes colères. Nous débarrasser de la manière d'agir du vieil homme, c'est refuser d'entretenir et de laisser grandir en nous la colère. Ça, on sait très bien le faire. On laisse, ça grandit. Cette colère qui peut se manifester de bien des manières. Ça peut être la rancœur, on a une dent contre quelqu'un. Ça peut être aussi des fois plus sournois, hein. Le refus de coopérer, on ne va pas aider l'autre. Ignorer l'autre. Fuir notre rencontre avec l'autre. Tout ça, c'est des choses, on entretient cette colère comme cela. Ça, c'est des choses dont nous devons nous débarrasser. Nous laisser renouveler par l'esprit de notre intelligence et revêtir l'homme nouveau peut se réaliser alors de diverses manières selon le type de colère que nous avons. Par exemple, selon Romains 12, 19, nous est dit « Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimé, mais laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit, c'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. » Ici, ce que nous pouvons faire, c'est abandonner totalement notre colère à Dieu. Ça ne nous appartient pas. Un jour, toute personne devra rendre des comptes à Dieu pour sa propre vie devant Dieu. Donc on peut abandonner notre colère à Dieu. Dieu s'en occupera. Ou bien, comme Matthieu 18 que nous avons lu précédemment, nous pouvons, si nous sommes en colère, trouver notre frère afin de lui parler. Et là, nous désamorçons notre colère en cherchant la réconciliation par la discussion. Ou bien, selon le verset 31 de notre passage, nous pouvons pardonner. Il nous écrit « Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. » Voilà, pardonner. Ça nous arrive à tous, nous avons été blessés, froissés. Eh bien, c'est aussi ce que nous avons fait par rapport à Dieu. Dieu nous a pardonnés. Eh bien, nous pouvons, nous aussi, pardonner à l'autre. Un autre exemple qui nous est donné, verset 28, que celui qui volait cessait de voler, qu'il se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Alors moi, quand j'ai lu, la première fois que j'ai lu ce passage, enfin la première fois, quand je l'ai lu il n'y a pas longtemps, ma première réaction c'est « ce passage ne me concerne pas ». Je pense que trop facilement nous avons tendance à écarter certains passages de la Bible en nous disant « mais oh, ça ne nous concerne pas ». Est-ce que nous sommes bien sûrs que ces passages ne nous concernent pas? Parce que quand on prend un petit peu de temps à réfléchir, mais voler, ce n'est pas juste prendre quelque chose dans un sac à main qui ne nous appartient pas. Voler, c'est plus large que ça. C'est prendre par nous-mêmes quelque chose qui ne nous appartient pas. Travailler, ce n'est pas juste avoir une activité rémunérée. c'est également nous investir, c'est œuvrer afin d'apporter notre contribution personnelle à quelque chose. Les besoins des autres, ce n'est pas juste un besoin d'argent. Ça peut être également tout ce dont ils ont généralement besoin pour vivre. Du temps, de l'attention, un soutien. Nous sommes donc tous concernés par ce verset. Nous débarrasser de la manière d'agir du vieil homme, c'est renoncer à ce fonctionnement qui est d'exiger que les autres nous fournissent ce que nous-mêmes nous refusons de faire pour eux. Alors, au sein d'une église, cela peut se manifester de bien des manières. Nous voulons par exemple qu'on s'intéresse à nous, que l'on vienne vers nous, que l'on nous appelle. Mais de notre côté, nous, on ne s'intéresse pas aux autres. Nous n'allons pas vers eux. Nous pouvons trouver normal de bénéficier, de venir dans un lieu comme celui-là et de bénéficier d'un lieu agréable, chauffé, et de pouvoir compter sur le service de personnes à temps plein. Mais nous-mêmes, nous ne sommes pas prêts à apporter notre contribution financière pour soutenir ces charges. C'est donc les autres qui doivent le faire pour nous. Nous pouvons également trouver normal de bénéficier, ou bien qu'il y ait dans l'Église toutes sortes de services. Un accueil chaleureux, des enfants pris en charge, un endroit propre et rangé, diverses activités édifiantes, un intérêt pour la mission, des œuvres sociales. Mais nous-mêmes, nous ne sommes pas personnellement prêts à nous investir pour contribuer d'une manière ou d'une autre à ces services. Et du coup, cela demande plus d'investissement encore de la part des autres. Nous laisser renouveler par l'esprit de notre intelligence, c'est entendre ce que le Saint-Esprit nous dit dans sa parole, et dans notre passage, il nous dit de donner à celui qui est dans le besoin. Et revêtir l'homme nouveau, c'est contribuer d'une manière ou d'une autre à répondre aux besoins des autres en partageant le fruit de notre travail, que ce soit financièrement, que ce soit par notre temps, que ce soit par nos compétences diverses, que ce soit par l'attention que nous portons aux autres. Nous pouvons tous contribuer à répondre aux besoins des autres. Notre dernier exemple, verset 29, nous dit « Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. » Bien, nous débarrasser de cette manière d'agir du vieil homme, c'est renoncer à toute parole qui a pour but de faire mal à l'autre. Des fois, on se cache derrière la vertu évangélique, je le disais tout à l'heure, de la vérité. Parce que c'est vrai, alors on se sent autorisé à dire des choses qui peuvent être blessantes ou les dire n'importe comment. Notre soi-disant amour de la vérité n'est parfois qu'un alibi pour masquer notre propre péché, notre amertume, notre refus de pardonner, notre incapacité à être maître de notre parole. Rien de cela ne peut justifier des paroles blessantes, humiliantes ou destinées à faire mal à l'autre parce qu'il est écrit qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche. Ce n'est pas que peu de paroles malsaines, c'est qu'aucune, pas une seule. Nous laisser renouveler par l'esprit dans notre intelligence, c'est savoir que Dieu nous demande de dire, selon notre verset, il nous demande de dire seulement de bonnes paroles. Voilà ce qu'on doit dire, seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, qui sont divers, qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. Revêtir l'homme nouveau, ça peut dire, voilà, c'est comment dire des choses qui vont servir à faire grandir les autres. Ça peut être des paroles d'encouragement pour ce qui est bien, ou si besoin est, des critiques, mais bienveillantes et constructives. Pas des critiques destinées à baisser l'autre, mais à l'interpeller, où on fait appel à son sens de la volonté de Dieu. On l'interpelle sur certaines choses. Nous devons absolument veiller en toute chose à ce que notre motivation soit l'amour. notre amour pour Dieu et notre amour pour la personne à qui nous parlons, car selon Éphésiens 4, 15, qui est donc deux versets juste avant notre passage, c'est en exprimant la vérité dans l'amour que nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, le Christ. La vérité toute seule n'est pas bonne si elle n'est pas accompagnée de l'amour. Grandir pour ressembler à Jésus, c'est notre objectif pour nous-mêmes et c'est également ce que nous devons chercher pour les autres. Alors cela signifie que nous ne devons pas nous comporter comme des incroyants, mais comme des hommes et des femmes qui croyons, qui croient en Jésus. Nous devons nous montrer dignes de notre appel qui est de ressembler à Jésus. Et nous devons nous montrer dignes de la grâce qui nous a été accordée en Christ. Nous devons nous montrer dignes de notre titre d'enfant de Dieu. On porte ça. Et bien souvent, les critiques sur les églises ou la religion ne sont pas basées sur ce que font une institution, mais sur ce que font les personnes qui ont une étiquette, qui agissent au nom de Dieu. Parce que nous sommes ambassadeurs de Christ, nous devons chercher à nous montrer dignes dans notre vie de notre représentation de Dieu dans ce monde. N'attristons pas le Saint-Esprit qui vit en nous, mais au contraire, cherchons à le réjouir en vivant d'une manière digne de notre appel. Amen.